Seigneur, nous te louons pour ta parole. On arrive déjà au chapitre 2, à Jean 2. Et Jean, qui à ce temps était bien plus âgé que beaucoup d'entre nous, il a fait un merveilleux commencement. Mes petits enfants, c'est une parole que Jean utilise souvent dans ses épîtres, dans ses lettres, pour parler aux croyants. Et pourquoi est-ce qu'il dit « mes petits-enfants » ? C'est une relation de vie qui vient là à expression. Jean nous amène à la vie, il appelle les croyants, particulièrement les jeunes croyants, pas seulement ses frères, mais bien plus, ses petits-enfants. Et pourquoi est-ce que Jean écrit à ses petits-enfants? La raison, c'est, au verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » C'est une parole pour les petits-enfants. Pourquoi? Parce que les enfants pêchent tout le temps. Ils font tant de fautes. Ils perdent leur patience. Ils n'écoutent pas les parents. Le premier mot qu'ils apprennent, c'est « oui ». Oui, je fais volontiers ça. Non. La première parole qu'ils apprennent, le premier mot qu'ils apprennent, c'est « non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. » Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est des petits-enfants. Et si souvent, avant que j'amène ma fille au jardin d'enfants, je dis, si tu vas là, sois brave, sois sage, ne fais pas de choses bêtes, ne pêche point. Pourquoi? Parce que un petit enfant pêche souvent. Il fait beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est aussi ce que Jean dit aux petits-enfants. Je vous écris, il doit leur dire qu'ils ne pêchent point. Mais comment est-ce que c'est possible d'accomplir une telle parole et de ne pas pêcher? C'est merveilleux. Nous parlons de la vie, là, et si nous parlons de l'esprit, ou si nous sommes nés de nouveau, ensuite, nous sommes nés de nouveau dans notre esprit. Nous avons maintenant, depuis notre nouvelle naissance, quelque chose en nous qui ne pêche point. Et ça, c'est notre esprit. Depuis notre nouvelle naissance, il y a une partie qui ne pêche point. On peut lire cela dans le chapitre 3, à Jean 3, verset 9. Il est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui est né de Dieu, mais quiconque est né de Dieu ne pêche point et ne peut pas pécher. Et ce qui est en nous, qu'est-ce qui est en nous qui est né de Dieu? C'est notre esprit. Notre esprit est né de nouveau par Dieu et ne peut pas pécher. Et encore une fois, au chapitre 5, en 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tout ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'évangile de Jean nous a dit, nous sommes nés d'esprit. Et ce qui est né d'esprit, c'est esprit. Il ne pêche point. Est-ce que ce n'est pas merveilleux en nous? Nous avons une partie qui ne peut pas pécher. Ça veut dire, c'est vraiment possible de vaincre le péché. Parce que sinon, Jean n'aurait pas écrit « Je vous écris afin que vous ne péchiez point. » Mais la condition pour cela, ce que nous ne péchions pas, c'est que nous marchions en esprit. Parce que l'esprit qui est né en nous ne pêche point. Mais nous devons apprendre à marcher par lui. Et c'est ce que Galates 5 dit en verset 16. Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le seul chemin de ne pas pécher et de ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est de marcher en esprit. L'esprit est sans péché, né de nouveau, et né de Dieu. Est-ce que nous faisons toujours cela? Est-ce que nous marchons toujours en esprit? Malheureusement pas. Si nous marchions tout le temps en esprit, alors nous n'aurions pas tant de problèmes avec le péché. C'est pour ça que la parole dit chaque fois quand nous il y a quelque chose en nous qui se lève et qui veut pécher, alors nous devons tuer les désirs de la chair et crucifier la chair et œuvrer notre salut. Dès que nous sommes nous marchons dans la chair ou dans notre moi déchu, alors le péché vient directement. La parole de Dieu nous dit que le péché habite dans notre chair. Et tant que nous sommes dans cette chair, alors il y a toujours la possibilité que nous péchions. C'est pour ça cette doctrine. Nous avons toujours la chair. Et la seule chose que nous pouvons faire, nous pouvons le forcer par la marche en esprit. Mais si nous ne nous exigeons pas de marcher en esprit, alors la chair vient. Et ensuite, il y a aussi le péché qui vient. C'est pour ça que Jean parle dans le deuxième chapitre. Il dit premièrement, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Mais pour les enfants, si quelqu'un pêche, si quelqu'un a péché, c'est ceci notre expérience. Pourquoi? Pour nous tous, si quelqu'un pêche, ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité que nous péchions. C'est merveilleux comment nous aussi on peut le faire pour nos enfants. S'ils ont fait quelque chose de mauvais, ils sont déchus, on ne va pas les mettre derrière la porte et dire au revoir, t'es plus la bienvenue. Bien plus, nous les reprenons et nous les rétablissons. C'est exactement ce que le Seigneur fait aussi. Si quelqu'un pêche, alors nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. C'est si merveilleux que le Seigneur intercède pour nous. L'Épître des Hébreux dit il est le souverain sacrificateur qui vit toujours là et qui intercède en notre faveur. Il aimerait même nous sauver parfaitement. Où est le Seigneur? Là, j'ai encore une merveilleuse parole de Romains 8. Verset 33, il est dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour nous. Le Seigneur est notre avocat. Il intercède pour nous. Et c'est différent que ce que Satan fait. Satan, c'est l'accusateur des frères. Le Seigneur est notre avocat. Mais l'ennemi aimerait toujours prendre le péché et nous amener dans la condamnation. Mon expérience, c'est qu'il le fait particulièrement volontiers pour les sacrificateurs. Dès que quelqu'un aimerait servir d'une manière, en tant que sacrificateur, il aimerait amener la nourriture au Père. Alors Satan trouve si souvent une raison pour accuser. Par exemple, dans Zacharie 3, à partir du verset 1, il est dit, il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur, là, il en vient du sacrificateur, le souverain sacrificateur. Josué, qui était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça, c'est ce que fait Satan pour les sacrificateurs, il accuse. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Verset 2, l'Éternel dit à Satan, ah, tu as raison. Il a vraiment des abyssales. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit? Non. Le Seigneur a dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Seigneur, intercède pour nous. Il réprime Satan. Et il nous sauve, et là il encore dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ça, c'est comment le Seigneur intercède. L'ennemi aimerait nous brûler dans le feu et pleinement nous exterminer, mais l'intercession du Seigneur, elle nous ressort de chaque accusation. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que nous avons un avocat? Et le Seigneur a donné toutes les bases pour intercéder. Sur quelle base le Seigneur peut parler, peut intercéder pour nous? La base, c'est que il n'est pas seulement notre avocat, mais il est aussi l'expiation pour nos péchés. Qu'est-ce que c'est pour un merveilleux avocat qui, en même temps, est l'expiation. Il a payé le prix. Il a tout pris sur lui pour porter nos péchés. L'agneau de Dieu. Un tel avocat, tu ne le trouves pas dans le monde. Si on cherche un avocat dans le monde, c'est très cher. On a payé beaucoup. 10 000 euros juste pour écrire une lettre. Mais le Seigneur n'est pas seulement notre avocat, mais il a payé le prix. Il est l'expiation pour nos péchés. Ça montre le Seigneur en tant que le vrai l'offrande pour le péché, il est mort pour nous. Ça montre aussi Lévitique, l'offrande pour le péché, l'offrande pour les transgressions. Un tel chemin que Dieu nous a donné par Christ, comme cette offrande pour vaincre le péché, l'offrande pour le péché. Mon frère se demande quelle est la différence entre ces deux. L'offrande pour le péché, c'est quelque chose qui nous sauve du péché, qui nous amène dans le péché, mais l'offrande pour les transgressions nous purifie des œuvres du péché. C'est pour ça que nous avons besoin de ces deux offrandes en tout temps. Merci le Seigneur pour Christ comme la réalité de toutes ces offrandes. Et bien sûr, ce n'est pas un moyen pour nous de pécher. Si la grâce est si grande, alors est-ce qu'on doit rester dans le péché? Non, pas loin de nous, nous ne devons pas pécher. Bien sûr, ce n'est pas notre but. Mais si nous sommes là, alors nous avons un avocat et nous avons une merveilleuse expiation qui est juste, qui a payé le prix pour nous. Et nous ne voulons pas rester pour l'expiation, nous voulons aller de l'avant. Nous avons parlé de la vie et la vie s'exprime en ce qu'il y a de la croissance. Et le Seigneur aimerait l'amener de l'avant. Pour cela, on va dans le prochain verset. Merveilleuse croissance. Nous reconnaissons Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Nous ne voulons pas seulement rester dans le même péché tout le temps et de faire le même péché, de se laisser purifier et ensuite faire le même péché, etc. Mais la vie en nous doit grandir. Ça doit parvenir à maturité. La croissance. Nous voulons garder maintenant ces commandements. Ça, c'est une preuve de l'amour pour le Seigneur et une preuve de, que nous le connaissons. Nous voulons garder ces commandements, mais pour garder ces commandements, nous avons besoin d'un homme fort. Si notre esprit est né de nouveau, mais n'est pas fortifié, qui n'a pas de force et qui est si faible, comment est-ce que nous devons garder sa parole? C'est si important que nous grandissions et nous parvenons à maturité. Un homme intérieur fort. C'est pour ça, dans le chapitre 2, si on continue de lire, verset 12, c'est encore un verset pour les petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Le verset 14, il est dit, pour la deuxième partie, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Nous, le Seigneur, nous voulons grandir en ce que nous ne soyons pas simplement nés de nouveau, mais nous voulons avoir un homme intérieur fortifié pour garder ses commandements. Nous voulons faire ce qui est juste à ses yeux. Et c'est ainsi, plus nous connaissons le Seigneur, et nous l'expérimentons, moins nous viendrons, nous amènera à notre chute. Et il a dit, si nous faisons ces choses, vous ne broncherez point. C'est une merveilleuse promesse. Au verset 4, celui qui dit, c'est une phrase que Jean dit souvent, il n'en vient pas simplement de ce que nous disons, mais bien plus que nous gardions ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. De garder les commandements de l'Éternel, ça a à voir avec l'amour du Seigneur. Ils sont seulement que nous connaissons le Seigneur, mais que les commandements, c'est l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec nous. Alors nous sommes menteurs et la vérité n'est pas en nous. Et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des croyants, oui, nous sommes nés de nouveau. Mais nous pouvons mentir. Et nous sommes des menteurs. Nous sommes nés, mais menteurs. Ça, le Seigneur doit traiter en nous. C'est pour ça que les cantiques des degrés dans les psaumes, à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, ça commence aussi avec cela. Le premier psaume, c'est le salut des lèvres mensongères. C'est la base, la raison comme pourquoi est-ce que nous pouvons grandir dans la vie. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde sa parole, c'est une preuve de l'amour, comme on l'a écrit sur le résumé. La parole n'est pas simplement accomplie ou parfaite une fois pour toutes, mais elle est aussi dit, elle est aussi accomplie. Accomplie, ça veut dire l'amour de Dieu va s'accomplir en nous plus nous gardons sa parole. Chaque fois quand nous sommes obéissants au Seigneur, nous gardons ses commandements, l'amour de Christ va être un peu plus accompli en nous. Va toujours un peu plus haut, va toujours un peu plus s'accomplir jusqu'à la fin. Toute la plénitude soit là. Et ça, c'est notre but. Éphésiens 3 dit exactement la même chose. Au verset 19, il est dit, nous voulons connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous laissons remplir petit à petit par l'amour de Dieu en s'exerçant avec un homme fort, de garder sa parole. Oui, le Seigneur, au verset 6, il y a la prochaine étape. Celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous ne voulons pas simplement garder sa parole, mais nous voulons avoir la croissance dans la vie. Que ça soit aussi exprimé. Alors, on voit le Seigneur en nous. Transformation. Quelle merveilleuse parole. Nous voulons marcher comme il a marché lui-même. À partir du verset 7, nous avons la plus grande étape de ce développement. Mais ça, c'est pour ce soir. Louez le Seigneur.